En ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église tourne nos regards et notre pensée vers l'événement central de l'histoire de l'humanité, la croix du Christ. Ce moment de l'histoire devient le moment de toute histoire, car en lui tout est récapitulé. Le Christ en croix est insulté, bafoué, moqué. Et pourtant le bon larron nous donne la clé d'interprétation en comparant et son supplice et celui de Jésus. « Nous, c'est juste, dit-il, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Il n'a rien fait de mal. Cette phrase résonne à nos oreilles et traverse l'histoire de l'humanité. Le Christ est l'innocent par excellence. Il est là et il ne répond pas aux provocations qui lui sont faites. Les seules paroles qu'il professe ne sont pas destinées à répondre aux invectives de ses interlocuteurs, mais aux mots sensés du bon larron. Et ce sont des paroles de miséricorde. « Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » De fait, le juste pouvait-il réclamer son droit face aux insultes qui lui étaient adressées, face à la mort sans fondement qui lui était infligée? Eh bien, sans doute que non. En effet, dans l'Écriture sainte, nous découvrons que la condamnation d'un innocent retombe toujours sur ceux qui l'ont provoqué et réclamé. Nous pourrions résumer en disant « Tu me condamnes injustement à la peine capitale, ton forfait découvert, tu seras exécuté à ma place. » C'est ce qui apparaît, par exemple, dans l'histoire biblique bien connue de Suzanne et des vieillards. Or, dans la Bible, qui plus que Jésus est innocent? Si le Christ dévoilait notre propre culpabilité au moment où il donne sa vie pour nous, il ferait retomber sur nos têtes sa propre peine. L'humanité serait condamnée à mort pour avoir réclamé la condamnation du seul innocent véritable. D'une certaine manière, le Fils de l'homme meurt en silence pour éviter que des paroles qui proclameraient son innocence ne condamnent hommes et femmes définitivement et sans retour. On comprend dès lors pourquoi il ne peut répondre aux soldats goguenards « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». En revanche, sachant qu'il veut notre vie, il répond à notre demande par le pardon. Nous l'avons crucifié par notre péché, il nous sauve devant notre repentir. Comme pour le bon larron, il accueille nos paroles lorsque nous nous tournons vers lui en disant « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras inaugurer ton règne ». Ici, pas de dérision, pas d'ironie ou de sarcasme, mais la vérité toute nue qui se fait jour. Pourquoi insulter celui qui souffre injustement? Pourquoi ne pas s'abandonner à la puissance de son intercession? Dieu écoute toujours le juste et l'innocent. En définitive, le royaume du Christ est un royaume à la fois fondé sur l'amour, c'est-à-dire le don de soi, c'est-à-dire le don de la croix, et à la fois fondé sur le pardon, c'est-à-dire notamment sur l'abandon total que chacun de nous fait entre les mains du Seigneur. Le Christ est roi, à n'en pas douter, car c'est le meilleur d'entre nous. « Tu es le plus beau des enfants de l'homme, dit le psaume. Il est roi parce qu'il possède les clés qui nous ouvrent le royaume de Dieu. Il est roi parce qu'il nous sauve. » En ce dimanche, où éclate la royauté du Christ, faisons de notre histoire personnelle un élément de l'histoire du salut. Demandons à notre Dieu de récapituler notre vie en celle de son Fils. Demandons humblement le pardon de nos fautes.